Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 décembre 2023, il sont 11h et nous saluons les fidèles et bienveillants auditeurs et auditrices du Club de la Presse qui sont déjà câblés sur le canal FM, la 93.5 FM à Lomé, ses environs ici, mais sur également les ondes des radios partenaires, Radio Courtoisia d'Apan, Radio Sama FM à Bagan-Yamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Central FM à Sokoré, Radio La Paix, La Voix del Plateau à Takpamé, Radio Lumière à Nehra, mais également les radios numériques et Bénin Radio, Radio Le Bénin, l'application Canal FM et la chaîne YouTube, hein, par lesquelles vous êtes en communion avec nous en divers endroits de la planète Terre. Émission réalisée, mise en onde par Victor Gbekoku, Michel et Tomega, qui va être rejoint par Jérôme Akoucha incessamment. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Un petit tour également sur nos routes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous observons? Est-ce que c'est la meilleure façon de passer de l'année 2023 à 2024? Nous en parlerons. Tout comme sujet délicat s'il en est, mais qu'est-ce qui se passe au sein de la maison catholique? Les journaux nous en parlent aujourd'hui. Nous allons aussi en parler, tout comme les prochaines échéances électorales qui commencent à avoir quelques visages avec les regards croisés des uns et des autres. Eh bien, avant de nous lancer dans ce débat, et comme c'est une tradition, nous revisitons François-Marie Arouette, que vous préférez appeler sous le pseudonyme de Voltaire, qui a écrit ceci, écoutons bien, « Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. » Encore une fois, « Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu », écrivait déjà Voltaire au XVIIIe siècle. L'occasion pour nous, pour moi, d'accueillir à ce plateau Michel Sarakwabalo Tchadja, Dazma.
À la fin, bonjour Sass, bonjour Jean, bonjour à tous nos amis du bout des ondes.
Tu vas très bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Et notre ami Malim Nirajou.
Non, elle va bien. Nous allons la rejoindre juste à la sortie.
Elle se prépare déjà pour recevoir tous ceux qui voudront plutôt consommer
ouais.
Le choukoutou local pour les fêtes.
Au-delà de nous, les animateurs de jeudi, je pense qu'il y a d'autres confrères et d'autres même dans la population qui vraiment aiment cette boisson locale-là, bien conditionnée. Et c'est l'occasion, comme les fêtes s'approchent, c'est l'occasion d'aller vraiment prendre ces boissons-là. Surtout que vous avez débattu en début d'année de ces aliments qui sont versés sur le marché, des aliments d'origine douteuse, des boissons aussi d'origine douteuse et tout. C'est l'occasion d'appeler les gens à la consommation. Encore une fois, des produits locaux.
Jean-Houle Polorini du journal Canal D, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée et à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
Merci. Le troisième vient de nous rejoindre, c'est Elam Kossi, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux invités, bonjour à tous les confrères, bonjour à tous, à toutes et à tous.
Tu sais Elam, la dernière fois je suis allé chez mon vieil oncle, il était vraiment fâché contre moi. Il me dit que je prononce mal ton patronyme, qu'il ne connaît pas un Atisobe en Ewe, ton nom serait Atichobe. Alors, qu'est-ce que tu as lui dit?
Non, moi, je suis Atisobe.
Atisobe,
oui. Donc, en fait, le patronyme diffère selon qu'on se trouve dans une région. Je sais qu'il y a des Atichobe, il y a des Atichobi, il y a des Atisobe, qui serait même le nom d'un village afougan.
Oui.
D'accord. Et il y a des Aticho aussi.
Aticho. Voilà. En tout cas, lui préfère que je t'appelle Atichobe.
Oui, mais ça ne répond pas à mon patronyme.
C'est pour toi, ça. Alors, très rapidement, j'ai annoncé le sujet sur une route. Je vous prie d'aller rapidement pour que nous puissions nous attaquer après au plat de résistance. tiennent le cheminement du Togo vers les élections que nous allons décliner. Mais qu'est-ce qui se passe sur nos routes? Il y a d'abord le journal Flambeau qui nous donne à nous tous rendez-vous à l'année prochaine, à condition que nous ne soyons pas victimes ou cause d'un accident de circulation entre-temps. Et dans notre le club de la presse du lundi, nous avions beaucoup parlé de route, notamment de la problématique des péages, notamment ce qui se passe autour des péages. À ce sujet, le confrère Écho du Pays écrit aujourd'hui: pourquoi devons-nous payer les droits d'usage de la route? C'est entre autres pour entretenir voies déjà existantes, alors que nos voies et l'homme. Toi qui habites comme moi à Sagbado, Logoté, tu as dû prendre la voie là pour venir ici à Canal FM, notamment à partir du Grand Carrefour Douane jusqu'à Kossombo. Tu as dû également observer ce constat. Une bonne partie de la voie est mangée par le sable. Et la voie, enfin, la route à trois voies se retrouve réduite à deux voies parce que le sable occupe déjà une bonne partie de la voie et l'homme.
Oui, mais pourtant, il y a des sociétés ou des personnes qui, chaque soir, vous les voyez, ou bien même le matin, qui balayent, etc.
Oui.
Mais malheureusement, le constat, c'est qu'il y a toujours du sable qui obstrue une partie de la voie. Et donc, c'est l'occasion d'appeler toutes ces sociétés ou la mairie, parce que je pense que c'est un marché qui est donné par les autorités municipales ou attribué, voilà, par les autorités municipales. Donc il va falloir qu'au niveau des autorités municipales on puisse faire le tour, parce que l'assainissement d'une commune relève beaucoup plus des prérogatives du maire ou de la mairie. Donc il faut qu'ils puissent faire le tour pour l'entretien de ces voies, parce que les sociétés prestataires qui eux aussi emploient des personnes de bonne volonté qui quand même essayent de pouvoir remettre le cœur à l'ouvrage. Quand vous les voyez même des fois à la nuit en pleine journée avec tout ce qu'ils font, vous savez qu'ils abattent quand même un travail qu'il faut saluer, mais en réalité le problème est là, le sable obstrue une partie de la voie. Donc nous sonnons l'alerte ici pour qu'on puisse réglementer ou régler ce problème très rapidement.
Eh bien, nous payons déjà des taxes sur les produits pétroliers. Une partie de ces taxes là devrait servir à entretenir nos voies. Nous payons également la taxe sur véhicules à moteur,
la TVM,
dont une partie est censée également entretenir la voie. Nous payons également les péages, et pourtant, si ce n'est pas le sable qui mange une bonne partie de la voie, c'est les trous un peu partout, notamment ces avaloirs qui ont été volés, et nos routes nous exposent à des dangers.
Vous savez, il faut qu'au niveau de toutes ces institutions puissent faire preuve de transparence dans la communication. C'est vrai que la SAFER, c'est l'organe ou la société chargée de l'entretien routier. Mais qu'est-ce que la SAFER met dans son entretien routier? Première question. Au niveau de l'OTR, on paye la TVM, d'accord? Au niveau de la TVM, quand on prend la TVM, qu'est-ce qu'on reverse à la SAFER? Qu'est-ce que l'OTR garde? Et quand la SAFER prend les sous, d'accord? Est-ce que, parce que à part la SAFER, il y a la commune et il y a la NASAP, qui ont aussi des budgets. Vous comprenez? Donc la mairie de la zone, c'est-à-dire du territoire donné, a un budget assainissement environnement, et la NASAP aussi a un budget assainissement environnement. À côté de ça, il y a la SAFER. Et à côté de la SAFER, il y a l'OTR. Donc, vous voyez qu'il y a au moins quatre structures qui ont un budget pour pouvoir faire face à l'entretien routier. Bon, maintenant, l'OTR n'intervient pas directement. L'OTR collecte, mais à la disposition de la SAFER. Bon, maintenant, la SAFER est le bras opérationnel. Mais la SAFER peut vous dire que moi, je reverse l'argent à la NASAP ou bien je reverse aux communes. D'accord? Bon, maintenant, il faut qu'au niveau de toutes ces institutions, on puisse savoir exactement, à un moment donné, qui fait quoi. Parce qu'on sait qu'au niveau des sociétés prestataires, elles sont attributaires des marchés publics de la mairie, de la zone. C'est pas d'une société donnée. Mais donc, comme c'est la mairie qui attribue ces marchés, parce qu'on l'a vu avec la mairie de Lomé, où les gens, quand on n'était pas encore dans la décentralisation, où tout était centralisé au niveau de la mairie de Lomé et de la préfecture, ou des préfectures, ou des délégations spéciales, c'est à la mairie de Lomé que les sociétés prestataires prenaient les marchés ou bien se voyaient attributaires de marchés publics de balayage. Bon, maintenant que les choses sont décentralisées à des niveaux donnés, il faut qu'on puisse nous dire exactement, si on constate un problème, à quel service on doit s'adresser.
Merci, tout ça est compliqué. Le citoyen simple comme moi, nous payons déjà nos taxes et impôts et nous souhaitons que nos taxes et impôts servent à ce qu'on nous dit, à savoir que c'est pour entretenir nos voies. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur les voies nouvellement tracées, qu'il y a beaucoup de trous hein, sur ces voies-là. Et c'est tout ce que nous demandons que ce soit réparé. Oh, Michel, aujourd'hui, nous ne parlons même pas des voies habituées, hein, seulement de l'entretien de ce qui existe. Alors, il arrive également que sur ces voies-là, nous soyons cause d'excès de vitesse en cette période de fête. C'est ce à quoi nous sensibilise le confrère Écho du Pays, que pour éviter hein, les accidents, commençons par éviter l'excès de vitesse. Autre phénomène dont nous sommes coupables également, c'est les surcharges. Ceux qui ont pu avoir le journal Flambeau des démocrates aujourd'hui, en version papier ou numérique, vous voyez des photos avec un bus chargé jusqu'à mesurer près de 15 mètres à cause de la surcharge. Ce phénomène de surcharge grandissant, ce n'est pas seulement les bus, c'est également les tricycles dont nous avons parlé en début de semaine. Et la photo d'un tricycle qui illustre l'article de Flambeau à la page 5, un tricycle surchargé, mais également qui transporte des personnes humaines dont on se demande comment ces personnes arrivent à tenir en équilibre hein, sur ce tricycle surchargé. Donc l'excès de vitesse, également les surcharges, aussi bien pour les tricycles que pour les différents types de voitures. Jean Houlot.
Oui, ça, ce que tu relèves n'est pas nouveau et nous le voyons quotidiennement. Moi, il y a de cela quelques temps, je quittais le Grand Marché pour me rendre dans la zone d'Agoué en passant par le Carrefour GTA et un taxi m'a dépassé. Le taxi, ce qu'il a chargé faisait deux fois sa hauteur. Je vous dis ça, je me suis arrêté et j'ai pris une photo parce que je me demandais est-ce qu'on allait l'arrêter en circulation? Est-ce que les agents chargés des forces de sécurité allaient interpeller ce taximan? Ou est-ce qu'il allait continuer? Et je vais vous dire que ce taxi a continué sa route jusqu'à sortir de l'agglomération. Et je me suis posé énormément de questions. Y a-t-il personne pour interpeller ces individus-là qui sont, ma foi, très inciviques? Parce que moi, je dis, quand on parle d'éviter la surcharge, c'est d'abord pour notre propre bien. Mais on a comme l'impression que c'est l'intérêt qui préoccupe plus ces conducteurs de taxi-là, de tricycles et j'en passe, qui font fi des règles élémentaires de sécurité. Et moi, je dis qu'ici, il faut véritablement sévir. Parce qu'à un moment donné, quand on sensibilise et que les gens ne comprennent pas, il faut sévir. Vous allez voir des passagers qui disent « Oh, on n'a pas de sous, on n'a pas de moyens. » Ah, ils acceptent même d'être entassés dans ces véhicules-là. Et continuent le trajet parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'il faut. Vous approchez des taximans, ils vous disent aussi que les gens ne payent pas ce qu'il faut. Donc, avec le peu qu'ils donnent, ils sont obligés de jongler comme ça pour les amener.
Jean, tu connais cette chanson de Afia Mala, sortie déjà à la fin des années 80. Tout le monde est coupable.
Tout le monde est coupable, véritablement.
Tout le monde est coupable, les transporteurs, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, les services, la DSR qui sont positionnés partout, qui sont au carrefour, qui voient tout sauf les véhicules surchargés. Également coupables, nous, les passagers, qui acceptons au risque de notre vie en montée dans ces véhicules qui sont des tombeaux à ciel ouvert, les chauffeurs de taxi, les syndicats, hein, nous sommes tous coupables. En tout cas, nous en parlons, quitte à ce que celles et ceux qui ont des oreilles et qui veulent jouer un tant soit peu hein, la sécurité, la prudence et le civisme face comme il se doit. Et nous avançons, terminons avec l'OTA que nous avons cité tantôt, qui intervient dans la perception des taxes sur les véhicules à moteur. Cet OTA dont les journaux parlent depuis cette semaine et sur lequel les journaux comme les journaux parlent aujourd'hui revient, change-t-il comme ça, Ouara est vainqueur, qui nous parle de la modernisation des services de l'administration, l'Office togolais des recettes, qui lance deux nouvelles plateformes, notamment, et comme le rappelle Canal D, Il s'agit de la digitalisation des procédures administratives pour l'obtention du numéro d'identification fiscale, le fameux NIF, ainsi que le paiement de la TVM, qui sont désormais opérationnels en mode ligne. Michel ?
Oui, je pense que l'auteur fait ce qu'il peut pour quand même faciliter et donc l'utilisation des services par les usagers, par ses clients ou par les populations. Et je pense que c'est dans une logique que l'auteur est depuis son installation. Il ne cesse d'innover, il ne cesse d'apporter de nouveautés, des innovations dans le sens de permettre à la population de mieux de mieux utiliser les services de l'OTR. Maintenant, je voulais revenir par rapport à la réfection ou à la réhabilitation de nos rues. Tu ne m'as pas posé la question. Moi, je ne viens pas ici par hélicoptère. Je viens aussi par
ou par bateau.
Ou par bateau. Je viens ici par voiture et je vois aussi beaucoup de choses. Mais Elon parlait de l'OTR. Et heureusement, il a bien dit que l'OTR collecte. Oui. C'est la même chose avec
la SAFER
collecte. C'est vrai, son nom c'est
entretien
routier, mais la SAFER directement qui choisit les entreprises qui sont chargées de rénover ou bien de retaper les routes qui sont en difficulté. Et c'est pourquoi nous osons croire que dans les années à venir, on pourra mettre une structure entre la SAFER et le ministère des Travaux Publics qui va être chargé et donc de surveiller tous les travaux qui concernent donc la réhabilitation des routes. Parce qu'aujourd'hui, mais on ne peut pas indexer une structure comme ça que c'est elle qui s'occupe de la réhabilitation des routes. Tant bien même au niveau de populations, on pense que c'est la SAFER qui a ce pouvoir, mais la SAFER collecte les sous, les envoie à qui de droit, et c'est à partir de là qu'on peut choisir les entreprises qui sont en mesure de pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, d'office, on ne connaît pas d'avance qui est chargé de faire. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange pas. Si aujourd'hui, vous parlez des routes qui sont défoncées, vous vous adressez à quelle entreprise? Vous ne pouvez pas indexer telle entreprise. Alors que s'il y avait une structure chargée exclusivement de ça, je pense que ça pourrait nous aider à vraiment suivre très bien comment les routes.
Mais Michel, en attendant de connaître les entreprises, pour le moment, nos propos s'adressent d'abord aux communes pour le plan local et au ministère en charge des transports routiers et ferroviaires, également au ministre en charge des infrastructures, parce que ce sont ces instances-là qui passent les marchés et attribuent les marchés.
Oui, je suis allé même au-delà de tes souhaits en disant que dans les années à venir, pour que ça soit beaucoup plus clair, il faut que nous puissions avoir une structure comme ça. Maintenant, j'en viens au surcharge.
Oui.
Vous voyez, cette affaire-là, est-ce que les nuits vers 0h, est-ce que vous êtes arrivé, il vous arrive souvent de circuler? Vous voyez, les bus qui viennent de Dapaon, qu'on appelle les allers-retours là.
Oui.
Vous voyez comment ils chargent? Vous voyez comment les véhicules là, les bus de 15 places, vous voyez comment les...
Qui transportent aussi bien des personnes et des marchandises.
Et des marchandises. Vous voyez comment les bus là la vitesse que ces véhicules là font sur nos routes. Mais bon, on ne sait pas si quand ils roulent à une heure, est-ce qu'il n'y a pas les gens chargés de suivre la sécurité routière. Il y a des gens, mais ça continue comme ça. Je reviens au tricycle. Moi, je pense que l'un des plus grands maux de notre pays actuellement, c'est ceux qui ont autorisé la circulation des tricycles dans ce pays. Parce que ce que ça crée comme problème, c'est plus important que le bien qu'on souhaiterait que ces engins-là nous rendent. Quand je prends un pays comme Conakry, Guinée-Conakry, on a interdit la circulation des tricycles dans les agglomérations. Et j'ai trouvé que c'est une mesure vraiment importante. Parce que ce que les tricycles créent comme problème dans la circulation, c'est incommensurable.
Même dans la sous-région.
Dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, et jusqu'à ce qu'on les autorise à créer des syndicats ou quoi. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Oui. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un taxi, vous n'êtes pas à l'abri du mal, mais vous êtes plus ou moins protégé.
Mais en moto.
Mais à moto, sur les tricycles, comme tu le dis là. Puisque le tricycle là, c'est un amas de fer. Tout. Il n'y a rien. C'est un amas de fer. Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau. Vous voyez, quand vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, c'est pour dire que il y a des choses à revoir. Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours. Sauf qu'il n'y a personne pour nous aider vraiment.
Pour nous recadrer. Pour
Oui, parce que ça va continuer comme ça. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Surtout, tu as dit tantôt, il y a quelque temps, le gouvernement a pris un décret pour prendre en compte les tricycles dans le transport public.
Ouais,
est-ce que les ministres qui sont à la base de ce décret, est-ce qu'ils sont dans la circulation? Est-ce qu'ils regardent ce que nous vivons au jour le jour? That is the question. Mais merci à cet auditeur qui tient à relever que la route depuis Todman jusqu'à Zangera, il y a ce phénomène bizarre. On a implanté les poteaux, les feux tricolores, mais qui ne marchent pas, du moins par endroit. Et un autre auditeur qui nous relève que ces routes ne sont pas encore réceptionnées. Et selon la loi, les routes non encore réceptionnées demeurent à la charge de l'entreprise qui les construit. Donc, pour le cas d'instance, Ebomaf, qui devrait continuer à entretenir aussi bien depuis Todman jusqu'à Zangera et au-delà, et en même temps que le tronçon de Segbe jusqu'à réception par les autorités habilitées. Merci aux auditeurs. La preuve que nous ne sommes pas isolés dans ce studio, que nous sommes en connexion directe avec vous. Et sans transition, que se passe-t-il dans la maison de l'Église catholique? Souffrez que l'apprenti chrétien catholique que je suis, que je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant d'aborder ce sujet. Revue de presse donc avec Canal D qui écrit en éditorial « Le diable est dans le lieu saint ». Jean Houlot, c'est l'éditorial de ton journal aujourd'hui.
Oui, le diable est dans le lieu saint parce que nous avons été tous étonnés, ahuris, pour ne pas dire inquiétés par cette décision qu'a prise le Vatican en autorisant la bénédiction. Ils ont eux-mêmes dit que ce n'est pas la célébration des unions, mais c'est la bénédiction des personnes de même sexe. Et ma foi, beaucoup ont été étonnés, se demandant où est-ce que l'instance dirigeante de l'Église catholique est en train de conduire le troupeau. Parce que qu'ils vous souviennent que dans la Bible même, Dieu interdit ces questions de LGBT, je ne veux pas les prononcer, d'homosexualité et tout ça. C'est interdit dans la Bible. Et même toute une région, à savoir Sodome et Gomorre, ont été consumées par le feu à cause de ces pratiques-là, contre nature, que ces hommes de l'ancien temps avaient pratiquées. Et on se pose la question de savoir si aujourd'hui, l'Église catholique autorise la bénédiction. On dit que ce n'est pas des rites liturgiques, mais on les bénit. On se pose beaucoup de questions. Et en même temps, ces évêques, il y a une autre qui est sortie pour essayer de recadrer, disant que non, on ne les rejette pas, mais quelqu'un qui a besoin de la bénédiction, il faut le bénir tout en acceptant. On ne refuse pas. Pour tous ceux qui sont croyants, je suis croyant, chrétien, quand quelqu'un pêche, certes, on ne condamne pas la personne, mais on condamne le péché. Mais quand on dit qu'il faut bénir ces personnes, mais il y a un problème éthique qui se pose, même si aujourd'hui, les gens sont en train de défendre, les leaders de l'Église sont en train de défendre, il y a un problème. Vous ne dites pas à la personne de renoncer à son péché, de renoncer, ici je parle sur le plan purement de la foi. C'est pour ceux qui sont croyants ici. Vous ne demandez pas à la personne de renoncer, mais on dit qu'on le bénit. Bon, qu'est-ce qu'on met dans cette bénédiction? Maintenant, si on revient sur le plan culturel,
Mais nous, en Afrique, nous n'avons pas ces cultures. Si en Europe, on l'accepte, mais qu'on l'accepte pour l'Europe. Mais on a tendance à croire que l'Église catholique a un penchant pour la culture occidentale. Pourtant, nous, en Afrique, nous rejetons ces pratiques-là. Et moi, je me pose la question de savoir si le mariage pour tous qui a été accepté en France n'est pas en train de tisser sa toile petit à petit pour envahir l'Église catholique. Parce que c'est les petits pas qu'on est en train de poser. On a commencé il y a quelques années en acceptant ces pratiques-là. Petit à petit, aujourd'hui, les gens sont en train de réclamer à corps et à cri qu'on légalise cela. Moi, je crains vraiment pour l'Église catholique et les fidèles catholiques.
Merci, le confrère Le Changement qui parle de comble de l'abomination, autorisation de la bénédiction des couples gays par le Vatican. Le Changement se demande à quand la création d'une version africaine de l'Église catholique qui respecte nos valeurs. Mais en attendant ça, et le Matisse Oubé, ton journal, La Nouvelle Tribune aussi, nous rappelle cette possibilité de bénédiction des couples de même sexe, et le journal évoque les vives réactions aussi bien des prêtres que des fidèles de l'Église catholique.
Bah, vous savez, c'est un sujet très délicat, et moi je réponds juste à la question en ces termes. On est dans une société où notre culture, nos cultures ne permettent pas justement de pouvoir accepter des gens qui se présentent devant nous comme étant des personnes qui sont en couple, de même sexe qui sont en couple. La société dans laquelle nous sommes, nos cultures ne l'admettent pas. Et donc, vous imaginez un seul instant, dans une église, par exemple, où on est dans la maison de Dieu, où on fait preuve de tolérance, d'amour envers son prochain, où on est là, on s'assoit, et justement, à côté de vous, vous vous rendez compte qu'il y a un couple de même sexe qui est peut-être à côté de vous. On vous dit, comme à l'Église catholique, on vous dit de la paix du Christ, et vous allez vous tourner vers cette... Vous regardez un peu la scène, en fait. Et vous, à votre gauche, à votre droite, vous avez des personnes, des couples de même sexe qui sont... Mais vous allez... La paix du cœur, comment... Mais les personnes qui sont choquées par cette situation, surtout au niveau de notre société, ne vont pas pouvoir faire ça.
À ce niveau, tu permets... comme je suis apprenti chrétien catholique, à cet instant... Le prêtre officiant nous exhorte à regarder le voisin, la voisine, dans les yeux, avec amour, avant de lui donner notre signe de paix.
Effectivement, oui, mais est-ce que véritablement il y aura cet amour dans les cœurs pour donner cette paix du Christ? Je suis dans la congrégation catholique, mais est-ce que c'est possible? Même si on nous dit aujourd'hui, parce que moi hier j'ai discuté longtemps avec un évêque au téléphone togolais, et il m'expliquait en réalité qu'il s'agit d'une bénédiction. D'accord, d'une bénédiction. Et non, mais en fait,
d'une bénédiction hors célébration,
hors liturgie. Mais en réalité, bon, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste.
Comment bénir hors liturgie? C'est Dieu qui bénit.
Je ne suis pas spécialiste de la théologie. Vous comprenez? Mais à un moment donné, je voulais poser la question de savoir, sans offenser quelqu'un ou les fidèles catholiques, est-ce qu'on adore le pape ou on adore Dieu? La question est transversale. Le pape a parlé, oui, mais est-ce que c'est le pape qu'on adore ou on adore Dieu? Que dit le pape et que dit la parole de Dieu? En fait, il faut savoir faire le discernement, c'est clair. Maintenant, le pape, il fait une déclaration, d'accord? On sait que le pape, c'est le pontife souverain de l'Église catholique, c'est le top, c'est le summum. Mais au-delà du pape, il y a Dieu. Mais ce n'est pas le pape qui nous a laissé, qui a écrit la Bible. Mais c'est pourquoi à un moment donné, je voulais poser la question de savoir, sans offenser quelqu'un, mais on est évêque, on est archevêque, mais on adore le pape, on adore Dieu. Parce qu'on est sous l'autorité justement du pape, du souverain pontife. Mais au-delà du souverain pontife, on est nous tous sous l'autorité du suprême créateur qui est Dieu. Et donc on ne peut pas aujourd'hui parce que le pape a dit. D'accord? Parce que moi je ne veux pas juste m'inscrire dans un jeu de mots. On veut analyser, on dit c'est juste une bénédiction, on dit ceci. Mais que dit la parole de Dieu? Parce que nous tous on a un dénominateur commun, c'est Dieu. Ce n'est pas un pape. Je suis désolé, mais quand... Peut-être, moi je ne suis pas de confession catholique. Et Michel peut être de confession catholique. Tu es de confession catholique. Mais quand on veut parler en dénominateur commun, c'est Dieu. Et non le pape. Vous savez, parce que moi j'ai un pasteur, peut-être quelqu'un un évêque, l'autre un archevêque. Mais quand on veut parler notre foi, les dénominateurs communs sont Dieu. Maintenant, que nous recommande justement? Parce que c'est une question de qui a un double sens. Un sens spirituel et un sens culturel. Nos sociétés, parce que vous savez que le Togo a rejeté depuis longtemps, au niveau de l'EPU, d'accepter l'homosexualité. Vous vous rappelez, ça fait 2 ans qu'on a demandé au Togo, à l'examen périodique universel, le Togo a rejeté ça carrément. Parce que nos sociétés ne sont pas prêtes et préparées à ça. Et quand vous regardez ce qui se passe en Ouganda avec Yoweri Museveni, vous pouvez regarder, vous savez que ben il y a quelque chose qui se passe. Bon, maintenant, si le pape parle, oui, bon, aujourd'hui, on ne veut de boucler contre cette déclaration. Et il va falloir qu'au niveau des évêques, parce qu'on a écouté l'archevêque de Parakou, moi j'ai lu le courrier de l'archevêché d'Abidjan sur le sujet, où on a demandé aux évêques d'attendre la réaction officielle de l'archevêque d'Abidjan sur le sujet avant de pouvoir faire la bénédiction des personnes de même sexe. Et quand vous regardez en Tanzanie, j'ai eu hier toutes les réactions possibles pour me situer par rapport au contexte. Et ce matin, la déclaration des évêques.
Justement, merci de nous ramener aussi au Togo. Nous avons accusé réception depuis hier de cette réaction de l'ensemble des évêques du Togo. Déclaration en date du 20 décembre 2023 et signée de Monseigneur Alornou de Palimé, Danka Longa de Kara, Ignace Djog Gaglo d'Anejo, Nicodème Bariga Benissan de Lomé, Dominique Guigbile de Dapaon, Moïse Touro d'Atakpamé et également Anilonda, évêque émérite de Dapaon, et Denis Amouzou Djakpa, archevêque émérite de Lomé. Michel, la déclaration dit ceci: mise au point de la conférence des évêques du Togo suite à la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Les évêques écrivent, entre autres, quelques extraits. Les évêques du Togo suivent de près les interrogations, les inquiétudes et les remous provoqués par la publication du dicaster pour la doctrine de la foi de la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Ils disent plus loin que la déclaration du dicaster est loin d'être une approbation ou une validation sacramentelle des unions entre personnes de même sexe. Plus loin, ils écrivent que cette déclaration ne modifie pas l'enseignement de la Bible et de l'Église sur le mariage qui est défini par le Concile Vatican II et reconnu comme une alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. Plus loin, au point 3, les évêques écrivent que selon la Bible et l'enseignement de l'Église, l'homosexualité reste présentée comme une dépravation grave, intrinsèquement désordonnée. Au point 4, ils écrivent: cependant, l'Église recommande que les personnes engagées dans des relations de même sexe soient accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Ce n'est que quelques extraits de la déclaration que j'ai citée. Michel.
Mais ça dit tout. On a une idée. Pour ceux qui doutaient encore, on a une idée, en tout cas pour ce qui concerne notre pays, une idée de comment, disons, le cercle le plus élevé donc, de l'Église catholique pense, donc de cette publication du pape. C'est clair. Moi, quand j'ai eu vent de ça, je me suis posé une question. Je suis allé voir le dictionnaire pour voir ce que ça, ce bénir là, bénédiction, c'est quoi, pour encore me prendre, pour bénédiction.
Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas bien.
Oui, qu'est-ce que bénédiction là, ça veut dire quoi? Ou bien, du point de vue spirituel, ça a autre entendement. Hein? Ces gens-là de LGBT, ou comment vous les appelez là, est-ce que c'est des gens avec qui, vraiment, il faut, quand nos évêques disent qu'il faut les accueillir avec respect, c'est vrai. C'est des humains comme oui, nous, choses. Oui. Mais, bon, compte tenu de la posture dans laquelle ces gens-là sont, moi, si je les croise, je suis mal à l'aise. Hein? Je suis, quand on nous demande de les accueillir avec respect, moi, je suis mal à l'aise. D'abord, à les voir même, ça dit, c'est comme le monde à l'envers. Et on nous demande que l'Église catholique est désormais prête à bénir ces gens-là. Franchement, heureusement, quand j'ai écouté la position des évêques du Togo, je me réjouis parce que, encore une fois, je pense que c'est encore une dérive de l'Église catholique. Hein, c'est parce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire, des dérives qui ont permis, en tout cas, qui ont occasionné le départ massif des fidèles catholiques vers d'autres obédiences religieuses.
Parce que ça là, et ça pose aussi un problème démocratique au niveau du Vatican. Parce que le pape là, avant de prendre ses décisions, il a mis au garde-à-vous un cardinal qui le combat grave. Il a mis à la retraite, semble-t-il, pour qu'il soit à l'aise pour opérer ces changements-là. Et parce que, comme Jean le disait, c'est encore clair que l'Église catholique vraiment est en train, en tout cas, de nous montrer que c'est la culture occidentale qui l'intéresse de plus en plus. Parce que nous nous sommes rendus compte, aujourd'hui c'est l'Église catholique, nous nous sommes rendus compte depuis 2 ans que même le sport, on l'utilise pour nous narguer.
Oui.
On utilise les droits de l'homme pour nous narguer.
Oui.
On utilise tout ce qui était là. Ça nous a ouvert les yeux que désormais, on doit faire extrêmement attention parce que ce qu'on a mis à l'international, la plupart du temps, c'est pour vraiment narguer les faibles. Et aujourd'hui, je vois que l'Église catholique aussi est en train de vouloir s'occidentaliser avec cette mesure-là. Sinon, comme le disent les évêques togolais, dans les prochaines semaines, nous allons regarder de très près comment les choses vont se passer, parce que ils ont dit ça ne change pas l'enseignement
si j'ai bien de la suivi. Bible et de l'Église.
Voilà. Donc c'est pour dire que ce qui était là, c'est ça. Mais maintenant, comment ça va se faire en Occident, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas.
Merci. Selon les statistiques, on nous dit que l'avenir de l'Église catholique, du moins, se trouve en Afrique, en Amérique et en Asie. Alors, est-ce que le pape, est-ce qu'il a pu consulter ses fidèles sur ce continent avant de faire sa déclaration? Peut-être que, comme les évêques du Togo le font, le pape devrait également se plier à une leçon, à un exercice de lecture expliquée pour que ses fidèles...
Les réactions
dans tous les pays,
ça lui donne une idée. Je suis sûr que ça va lui donner une idée. Il y aura des remous même au Vatican. Il y aura des remous. Et ce sera intéressant.
On attend sur la position,
sujet délicat,
la position des
évêques du Congo. Je remercie beaucoup les auditeurs.
Vous savez, en 30 secondes.
Oui.
Je vais finir en 30 secondes.
Oui.
On attend également la position, parce que moi, depuis hier, j'ai checké pour avoir la position des évêques du Congo. Vous savez que le Congo est le pays d'Afrique qui a le plus de
paroisses.
Le Congo démocratique,
RDC.
Qui est en élection.
Ils sont très occupés par les élections,
parce que c'est le pays où, à chaque kilomètre carré, vous avez une paroisse, une chapelle, l'Église catholique. Donc, on attend aussi la réaction des évêques du Congo sur le sujet, parce que, franchement, quand on prend l'Afrique en général, les évêques du Congo ont des positions tranchées sur des sujets bien précis.
Merci. Donc, un petit rappel à Michel que le pape n'est pas un dirigeant démocratique, mais il est inspiré par Dieu et l'Esprit Saint.
On a compris.
Ce qui est un peu bizarre, paradoxal, c'est que les polygames sont rejetés. On ne bénit pas la polygamie.
Voilà.
Qui était naturellement acceptée auparavant. Mais on bénit les gens qui font les conneries là. Je ne sais pas à un moment donné quel boulot a disjoncté quelque part.
Ouais, là, c'est quand même une observation.
Oui.
L'Église ne reconnaît pas la polygamie
voilà.
qui existait même dans l'Ancien Testament. Oui. Mais cette Église, maintenant, dont le pape nous dit qu'il va bénir ceux qui font des choses contre nature.
Oui. Et en disant qu'ils vont se répartir.
Ce que vous ne voyez pas de très loin, c'est que c'est un complot ourdi contre nous, les Africains.
Parce que le problème,
on veut politiquement, à la tête de nos États, politiquement, on est en train de les
contraindre
oui. à aller vers là.
Oui.
Maintenant, on utilise l'Église catholique. Et ça,
oui.
Or, on sait que l'avenir du monde, c'est l'avenir de pays qui auront une grande population.
Oui.
Et on sait que d'ici 50-60 ans, l'Afrique risque d'être le continent le plus peuplé. Et donc, il faut nous amener à aller sur ce chemin-là.
Merci. Je puis confirmer sur un plat profane que j'ai eu le privilège d'avoir fait partie de la délégation à l'EPU en 2022. Et je puis vous assurer que dans ces questions terribles qui sont faites sur les États pauvres pour leur faire accepter des choses bizarres comme l'homosexualité, ceci. Je puis vous dire même qu'on oblige nos chefs d'État à accepter des considérations de ce genre-là avant même que nos pays puissent obtenir des financements, aides. Ouais. Des aides.
Non, ici ils n'ont qu'à prendre leur fond là. Ils n'ont qu'à prendre.
Quel fond?
Je dis, ces fonds qu'on veut nous donner là, ils peuvent garder ça.
Ils peuvent mais garder. Mais c'est nous qui sommes demandeurs, Michel.
Non, attends. Nous avons aussi nos conditions.
Okay.
Et si nous gérons bien nos pays, on n'a pas besoin de ces trucs-là.
Merci.
Si on combat bien la corruption et tout.
Merci. Mais... Alors, pour ces choses-là, un auditeur nous rappelle ce que l'ancien ministre Vivien Yahoukomlan avait dit. Si vous mangez la pâte ou le riz et que la sauce finit, que vous envoyez quelqu'un aller chercher la sauce. Si celui-là vient vous raconter ce qu'il a entendu et vu avant de vous ramener votre sauce, vous aurez perdu l'appétit. Et pour clore ce sujet, encore une fois, ce que Voltaire, je rappelle que Voltaire, c'était quand même un chrétien, mais il se montrait très critique vis-à-vis de l'Église et il avait écrit que si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. La réflexion continue pendant que nous ouvrons la page maintenant du cheminement vers les élections à venir. Revue de presse rapidement avec Flambeau qui écrit « Législative et régionale 2024, les choses se précisent ». Écho du pays, lui, à la page 5, nous parle de l'organisation des prochaines élections avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui opte pour le couplage des régionales avec les législatives. Le dialogue également nous parle du couplage des régionales et législatives au Togo. Tout se précise. Pendant que l'intelligent, lui aussi, écrit « Élections législatives et régionales couplées au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 ». Je continue avec Chronique qui nous parle du découpage électoral avec ce titre. Pour l'apaisement, le gouvernement en passe d'acter la proposition de l'opposition. Ouara, les vainqueurs, nous parle lui aussi de scrutin couplé, révision du code électoral et également augmentation du nombre des députés. Et le changement écrit qu'en la matière, la dynamique pour la majorité du peuple DMP rejoint le CAR, le comité d'action pour le renouveau, sur un nouveau découpage électoral portant le nombre de députés à 117. Mais déjà, dans ce sens-là, il y a un parti, l'ADI, et son président, Aimé Tchabore-Gogué, qui ne sont pas d'accord avec le fait de prendre les communes comme base électorale sur ce débat qui continue au sein du gouvernement mais également au sein du CPC. Jean Houlot, ton journal parle de verre à moitié plein pour les uns et à moitié vide pour les autres.
Oui, ça, il faut le dire. On l'attendait de pied ferme, le CPC, pour en savoir quelles seront les conditions qui seront remplies pour que nous puissions aller à des élections. Je crois que depuis la semaine passée, à l'avant-dernière réunion, la majorité a proposé que nous allions à des élections couplées, ce que le Conseil des ministres semble entériner. Et nous irons probablement à des élections couplées régionales et législatives. Et au niveau du découpage, une proposition est venue demandant à ce que nous allions vers une nouvelle répartition, c'est-à-dire qu'on ait un député pour chaque commune, ce qui permettra à ce que chaque commune puisse être représentée. Et, ma foi, plusieurs ont, semble-t-il, accepté cette proposition. Et c'est dire qu'on aura une modification du paysage électoral d'ici 2024. Mais de l'autre côté, il y a le président Aimé Gogué de l'ADI qui a fait une comparaison par rapport au ratio par habitant dans plusieurs pays, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, où il trouve qu'au Bénin, on a 128 000 habitants pour un député, en Côte d'Ivoire, 115 000 habitants pour un député, au Sénégal, 110 000 habitants pour un député, et au Togo, on a un député pour moins de 90 000 habitants. Ce qui fait que nous aurons plus de députés, mais pour un nombre vraiment de population faible. Et ce que le président de, du parti a dit n'approuve pas. Et on a comme l'impression qu'on veut aller dans un sens, mais moi je me dis, est-ce que véritablement le fait qu'aujourd'hui nous ayons 100, au minimum 117 députés, est-ce que c'est vraiment, ça va vraiment arranger notre pays? Parce que faut pas oublier que ce nombre de députés supplémentaires, c'est un budget qu'il va falloir allouer à ces près de 20 et quelques personnes qui vont s'ajouter. Il faut prévoir leurs véhicules et tout et tout. Est-ce que nous avons aujourd'hui les capacités pour le faire? Est-ce que si nous allions vers un redécoupage simple, mais avec le même nombre de députés, est-ce que cela ne va pas arranger plus les finances du peuple? Je crois que même le parti Unira dit par son représentant que ce sont des propositions que le CPC fait, mais le gouvernement est libre d'adopter comme de ne pas adopter. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on n'a pas une position définitive. Il y a eu une réunion hier, les membres ont encore discuté des mêmes points, mais pour le moment, rien n'a... Il n'y a pas de décision définitive. Nous attendons de voir est-ce que le gouvernement va proposer un projet de loi, un décret pour finalement qu'on soit situé. Est-ce que nous irons à plus de 91 députés?
Effectivement, le cadre permanent de concertation a tenu sa 13e séance hier, présidée par le député Adjurovi Paco, avec le ministre Odabalo Awate comme rapporteur général. Y avait assisté les représentants de la majorité parlementaire, de la minorité parlementaire, du groupe des députés indépendants et de l'opposition extra-parlementaire. Ils ont débattu du découpage électoral et également du fichier électoral. Ils sont promis de se retrouver prochainement. Mais sur cette idée qui circule et dont certaines personnes annoncent déjà que nous pourrions avoir un parlement à 117, d'autres vont jusqu'à 121. Il y a la position du président du parti Adi Gogé qui dit s'opposer à cette proposition pour les raisons dont Jean Houlot nous a développé quelques arguments. Mais il y a également la société civile par l'association Veille Citoyenne du Togo qui relevait déjà hier les implications financières pour l'État togolais déjà confronté à des difficultés. Pour rappel, si nous passons à 117... alors que nous sommes maintenant en 91, il y aurait 26 nouveaux députés avec tout le traitement que cela implique. Et Veille Citoyenne du Togo rappelait il y a encore que le développement d'un pays ne se mesure pas uniquement au nombre de ses représentants politiques, mais à la capacité de répondre aux besoins réels de la population. Et ce matin, sur les réseaux sociaux, j'ai capté la réaction de notre confrère et ami Ferdinand Haïté, qui écrit également que personne ne se pose la question de savoir si nous avons réellement besoin de 117 députés pour 8 millions d'habitants. Et également, un auditeur a partagé avec moi cette réaction que les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition semblent s'accorder sur l'augmentation du nombre des députés. Mais l'auditeur relève que pauvre de nous, qui attendons la proclamation des résultats des concours de la fonction publique, concours que nous avons passé depuis des années et dont apparemment ni le pouvoir ni l'opposition ne semblent s'intéresser, si ce n'est pour s'accorder sur l'augmentation des sièges à l'Assemblée nationale. Voilà, Michel, toute la scène que je présente dans tous les sens.
Mais au CPDC, on parle politique. Au CPC, pardon. Oui. On parle politique. On ne parle pas des concours. Donc, quand les acteurs politiques se retrouvent, c'est pour parler de la politique et de ce qui les intéresse. Et c'est ce qu'on constate. Hein. Et moi, bon, depuis le début de ce débat sur l'augmentation ou non du nombre de députés, au fait, ça ne me dit rien.
Ça ne te fait ni chaud ni froid.
Oui, puisque, vous savez, si on fait des découpages sur des bases objectives, si au Togo nous avons 60 députés, s'ils veulent vraiment voir, s'ils veulent vraiment nous aider, s'ils veulent vraiment travailler pour la population, ils vont le faire. Ils peuvent être 200 ne rien faire. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que le Parlement actuel, est-ce qu'il pense à nous? Est-ce que le Parlement là rend service aux Togolais
avec les 91 députés qu'ils sont,
avant qu'on ne pense à rajouter, et avec les difficultés financières que le Togo a? En tout cas, c'est eux qui vont décider. Ils vont décider, on va voir. Mais dans tous les cas, moi, je me dis que quand on sait que le député sait légiférer et contrôler l'action gouvernementale au Togo, on sait qu'il légifère, c'est bien. Mais contrôle de l'action gouvernementale, là-bas, on les voit.
Ils essaient de le faire aussi.
On les voit rarement.
Oui.
On les voit rarement. Or, c'est ce qui intéresse le plus les populations. C'est ce qui nous intéresse. Que quelqu'un a pris un bic quelque part, il faut qu'il lui ramène ça. Il faut que les députés, quand même, interrogent le gouvernement. S'il y a cherté de la vie, si les derrains, les produits de première nécessité, on voit leur prix augmenter. Il faut interroger le gouvernement. Est-ce que nos députés actuellement, ils le font? Est-ce qu'ils le font?
Ah, peut-être qu'ils le feront maintenant quand ils seront 117.
Non, c'est pourquoi ça ne dit absolument rien, parce que ce n'est pas le nombre de députés qui va changer nos conditions
comme
de vie.
Veille citoyenne du Togo.
C'est pas ça qui va nous changer. Peut-être eux, dans leur récit, quelqu'un parle trop, peut-être on va lui faire taire en prenant un poste de député. Sinon, en réalité, qu'est-ce que la population, nous là, on gagne quoi dedans? On n'a rien. Donc c'est pour taire certaines poches de résistance pour calmer certaines personnes. Sinon, 660, ils vraiment veillent à ce que nous vivons bien. Bon, on les encourage. Mais s'ils sont 200, ils ne nous font rien. Mais alors, le choix est clair.
Merci. Donc, les discussions continuent au sein du CPC pour être finalement validées par le gouvernement. Mais comme je le disais, ils ont parlé de ça hier. Le rapport ne nous dit pas qu'ils ont adopté une position définitive. Tout comme ils ont parlé également du fichier électoral avec la CENI qui leur a dépêché deux experts pour expliquer tout ça. Et la CENI qui a communiqué son chronogramme au gouvernement, on n'en a pas encore tous les détails, mais ce que nous savons déjà, c'est que nous irions vers les élections couplées régionales et législatives.
Franchement, cette proposition du CAR, ça m'a fait rire. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est vrai qu'on est en politique, en politique, il n'y a pas des enfants de cœur, chacun travaille pour ses intérêts. Mais cette proposition du CAR, ma foi, ça ne répond absolument rien du tout. Mais voilà des partis politiques de l'opposition qui se plaignent qu'on n'a pas recensé des gens dans la zone 1, qui se sont battus ou qui disent à corps et à cri que non, il faut revenir sur le recensement dans la zone 1, parce que des militants ne se sont pas fait recenser ou la population électorale n'a pas pu se faire recenser en majorité. Mais c'est les mêmes personnes qui veulent qu'on augmente le nombre de députés et qu'on répartisse quand même les clés, au niveau des sièges. Mais attends, si vous avez par exemple dans la zone 1, vous avez par exemple une taille d'habitat, une taille de la population, et que vous savez que la population électorale ne s'est pas fait recenser massivement, c'est sur quelle clé de répartition des sièges à l'Assemblée vous voulez travailler? Je ne comprends pas. Non, mais il faut qu'on soit assis, nous discutons. Mais les gens font comme si quand ils discutent, nous on a fait juste le CP1, on dort. On n'a pas fait des études supérieures. Mais quand les gens s'assoient, il faut qu'ils réfléchissent à nous. Mais à la limite, on nous prend comme, mais vous êtes des cow-boys, allons-y quoi. Non, mais vous asseyez, c'est vous qui vous plaignez que dans la zone 1, vous n'avez pas pu faire recenser la majorité des électeurs. Maintenant, vous vous battez pour qu'on augmente le nombre de sièges. Qui va voter pour vous? Qui va voter? Ceux qui n'ont pas fait le recensement? Mais c'est tellement con et
biscornu. Il y a quand même plus de 4 200 000 Togolais qui ont réussi quand même à se faire inscrire sur les listes.
Oui, mais la zone, le Grand Lomé, oui. Combien de partis politiques n'ont pas relevé le fait qu'il faut que la CENI revienne sur les... Même nous, les journalistes, on était d'accord, parce qu'il y avait tellement d'affluence que même au dernier jour, les gens n'ont pas pu avoir le cadre de lecteur. Et puis finalement, c'est passé par perte de profit. Les gens ne discutent plus de ça au CPC. Hein. C'est augmenter le nombre de sièges.
Et puis il y a mieux.
Non.
Le jour du vote aussi, il faut s'inquiéter. Parce que le jour-là, par rapport à ceux qui se sont bousculés pour
avoir
le 4 là, est-ce que quand l'heure de fermeture va arriver, on va laisser, on va fermer, ou bien on va permettre à tout le monde de voter?
Mais ça, on n'en est pas encore là.
On n'en est pas. Non.
Le gouvernement vient de remettre en chantier le code électoral.
C'est que les gens étaient devant les bureaux de vote. J'en ai vu de mes propres yeux.
Oui.
On a fermé. On les a laissés.
parti. Mm-hmm. Bon, on te pose la question aussi, parce que c'est des élections d'enjeu. Ça, il faut qu'on se...
Effectivement. Qu'on se
le dit, d'enjeu.
Oui.
Par rapport à ce qui s'est passé en 2018, oui. Ces élections-là, c'est des enjeux, des élections d'enjeu. Tous les partis politiques seront dans les starting blocks, ou sont déjà dans les starting blocks. Donc, il faut quand même que le discours que les partis politiques vont tenir lors de la campagne, qu'on voit une mobilisation générale pour faire de ces élections-là une fête. Mais alors, si la mobilisation qu'on a vue là, si les gens sortent comme ça, le jour de l'élection, à un moment donné, on fera voter tous ceux qui sont là.
Je présume.
Ou bien,
je présume.
On va le faire comme on a fait pour le recensement.
Ce que Michel dit, c'est pertinent.
Dans la mesure, on va le faire comme pour le recensement. Pour leur arriver, on ferme.
Je veux juste ajouter, parce que vous savez, ce que les gens sont en train de faire là-bas, parce que moi je m'étonne, je ne suis même pas étonné, mais c'est-à-dire que les gens dévoilent leurs intentions, les agendas cachés sortent. Parce que, regardez, le Parlement était à 81 députés. En ce temps, le siège était au Palais des Congrès. On est parti maintenant au siège de l'Assemblée, on est à 91 députés. Et subitement, on nous dit qu'on a des communes, il faut répartir les clés par un siège par commune. Mais les communes n'ont pas la même taille. Oui. Combien de fois on ne s'est pas battu ici, dans ce pays, les partis, pour dire que mais, les communes n'ont pas la même taille, ni la même population. Vous ne pouvez pas faire une répartition comme ça. Ça ne répond à aucun critère. Et puis de deux, le Parlement, on voudrait qu'on passe de 91 à 117. Mais comme Michel l'a dit, ce n'est pas la taille qui détermine la qualité du fonctionnement d'une institution, la qualité de l'institution.
Ah oui.
Ce n'est pas la taille de le nombre de députés. Mais on était à 81. On est passé à 80, ça a changé quoi?
Justement.
Maintenant, on veut passer à 117. Qu'est-ce que ça va changer? Regardez, quand un député ne vient pas au Parlement, vous pouvez faire 5 ans, personne ne vous dit que vous êtes sanctionné. Hein. Le député est libre de venir aux séances plénières ou pas. Je parle sous le contrôle, ils sont en train de m'écouter. Il y a un député.
Il y a des postes vacants de 5 ans.
Je vais vous faire une confidence. Oui. Lorsque le Parlement était à 81 députés, il y a des députés dont le nombre de présences aux sessions plénières est inférieur au nombre d'absences. Ils se connaissent. Et personne n'a travaillé dessus. En 5 ans de mandat, des gens se sont absentés pendant 4 ans. Parce qu'ils étaient toujours en députés. Non, mais ce que je dis, c'est vraiment sérieux.
Oui.
Et ils percevaient l'argent de l'État. Ils ne légiféraient jamais. Ils étaient toujours en mission. Mais ils sont venus à la dernière année, ils ont fait 2-3 mois en session plénière, ils ont disparu. Ils ne connaissent rien des lois, rien de la... Il y a même des gens qui ne connaissent pas comment faire une procédure d'interpellation ou une procédure pour pouvoir écouter un membre du gouvernement sur un sujet. Les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment on fait ça. On est là, on nous parle d'augmenter le nombre.
Il va être bientôt. La preuve que tu as raison,
non, franchement,
c'est que les députés, ils s'entendent toujours pour voter leur budget interne à huis clos.
Effectivement.
À l'abri de tout regard.
Donc tout le monde doit aller manger. C'est ça le problème.
Mais pour terminer, Jean Houlot, l'auditeur dit que finalement, nous aussi, nous faisons comme les politiques. Nous oublions ces jeunes gens qui ont passé les concours publics depuis plusieurs années et qui vieillissent, et nous-mêmes nous intéressons seulement à ce qui va advenir au Parlement avec le nombre de députés qui va augmenter.
Mais non, ce n'est pas ça. Il faut reconnaître que l'actualité actuellement, c'est les élections. On ne peut pas occulter cette question et puis parler d'autre chose, parce que c'est les mêmes personnes qui diront demain que non, au moment où il fallait parler des élections, on était là à parler des concours. Mais actuellement, c'est le sujet brûlant et je crois que on doit en parler. Mais quand l'homme disait que bon, les gens se sont retrouvés, il parlait uniquement de l'augmentation des députés et on n'aborde plus la question du recensement. Mais qu'ils vous souviennent que le gouvernement a posé une fin de non-recevoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous abordez ces questions, personne ne vous répond.
Non, mais pas aborder. C'est-à-dire que les gens disent qu'il faut revenir sur le recensement.
Oui,
genre,
oui.
On n'a pas trouvé une solution.
Oui.
Ou bien,
oui.
Maintenant on dit qu'on veut aller augmenter le nombre de députés. Qui va voter?
C'est ça la question.
C'est deux choses différentes.
Oui, non, les cartes, ils vont voter.
Les cartes, ils vont voter. Maintenant, là.
Oui, mais
les gens ont compris que...
Eux qui se plaignent qu'on n'a pas suffisamment recensé les gens qui vont voter.
Ils ne refusent pas, mais ils ne vont pas se camper juste à ce sujet et ne plus avancer.
Bon, finalement.
Finalement, il est midi et nous allons devoir arrêter là. Bon, pour les auditeurs qui s'impatientent pour leur concours d'entrée en fonction publique, je leur rappelle que le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres hier. Le gouvernement a examiné un projet de loi portant justement sur le statut général de la fonction publique. C'est peut-être avec l'adoption de cette loi-là qui fera qu'on va proclamer le résultat. Il est midi, nous allons à la pause.
13.5. Canal FM.
Nous avons parlé de Dieu, de l'Église catholique, nous avons parlé de nos comportements sur les routes, nous avons parlé de ce qui se met en place pour les élections à venir. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour, grand frère.
Oui, Benoît Dagouet.
Oui.
Ok, allez-y.
Ok, je salue le plateau.
Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
En emmenant le nombre de députés à 117, il arrive des fois qu'on voit la TVT nous montre des rencontres entre le parti Unir et le parti communiste en Chine. Et je pense qu'ils sont sur un chemin, quoi. Donc, c'est mon point de vue.
Et quel rapport avec le débat d'aujourd'hui?
Oui, ça concerne le nombre de députés qui sera passé de 91 à 117. Okay. Bon, j'aimerais aussi parler de la déclaration du pape.
Oui.
En ce qui concerne la bénédiction des personnes de même sexe.
Oui.
Je pense que les évêques d'Afrique doivent réfléchir. Ici au Togo, la bénédiction, c'est que vous êtes d'accord. Vous approuvez la chose, c'est pourquoi vous donnez la bénédiction. Moi, je ne vois pas d'autres explications.
Merci beaucoup, Benoît. Qui passe le témoin au suivant? Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Et salut le plateau.
Oui.
Yamavo.
Allez-y, monsieur Yamavo.
Oui, pour la religion concernant la bénédiction des bébés, c'est notre génération qui voit ça. À l'avenir, ça dépasse un virus. C'est contagieux. Vous voyez comment, déjà, avec les droits de la femme qui sont doublés, dans le droit de l'homme, ils ont leurs droits. Dans le droit de la femme, ils en ont encore. Donc, un jour, les garçons seront désemparés. Ils vont chercher à être ensemble. Les femmes aussi. Donc, c'est une machine qui est mise en branle. Ça va prendre effet après nous, quoi. Bon, allons-y aux élections. Par rapport au découpage, gouverner, c'est prévoir. L'État a su découper les communes comme ça, et il sait à quel parti donner la clé pour faire cette proposition dans leur cadre de discussion. Vous voyez que ça a passé comme une lettre à la poste, mais ils font semblant qu'ils vont aller encore réétudier pour voir ça va se passer ou pas. Donc, c'est l'assentiment du gouvernement. Ils savent que l'opposition mettait cette réclamation depuis sur la table. Maintenant, il faut découper les communes en fonction. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes d'accord que dans les autres pays, ils sont plus peuplés que nous. C'est pourquoi les députés aussi ont leur nombre plus peuplé que nous. Donc, si je prends la DMP, je suis d'accord parce que ils ont compris que l'opposition ne doit pas naviguer contre courant. Les nageurs savent, avant de sortir de l'autre rive, il faut savoir se plonger dans l'eau.
Merci, monsieur Yamavo. Souffrez que nous allions aux auditeurs qui s'impatientent en ligne. Bonjour, l'ami.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Moi, tout d'abord, je salue le plateau.
Oui.
Et je voudrais parler de l'augmentation du nombre de députés, là, de 91 à 117.
Oui.
Ça, je ne prends pas l'importance, puisque avec 91, est-ce qu'on ne peut pas signer ou bien passer les lois? Il faut aller à 117 avant de les passer. Mais est-ce que ça va beaucoup coûter au pays? Et actuellement, tout le monde souffre. On se mène. Et vraiment, moi, je ne vois pas l'importance de ça.
Merci.
Mais pour la bénédiction de même genre.
Oui.
Mais je ne vois pas que c'est important, hein, puisque dans les pays européens, ils font ça là-bas, mais chez nous en Afrique, ça c'est l'abomination. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Papa Sardine, depuis Amoutievé. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Sass Gao, bonjour le plateau, c'est Richard depuis Copenhague.
Richard, depuis le Danemark.
Ouais.
Eh bien, allez-y, Richard.
Bonjour, grand frère Tada.
Bonjour, mon frère.
Mais, ouais. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui au Togo, la meilleure affaire qui prospère, c'est d'être un politicien.
Mais laisser le journalisme. Et puis, bon, je sais qu'on peut être journaliste et être député. Moi, je pense que nous tous, on finira par être députés au Togo. Hein. Merci.
Je vous en prie. Donc, vous allez quitter Copenhague pour vous faire élire député au Togo. Je vous recevrai avec beaucoup de plaisir au plateau.
Ça fait bien, mon frère.
Oui.
Ça fait bien. Si on devient député, ne rien dire pendant 5 ans, et puis percevoir les trucs, ben c'est bien.
Mais Richard, il y a quand même des députés qui travaillent, hein. Il y a des députés qui répondent présents à toutes les séances en commission et en plénière et qui font vraiment un bon travail.
La majorité n'a jamais levé un seul doigt.
Merci beaucoup, Richard. Le suivant, allô. Bonjour.
Allô, Charles, bonjour.
Oui, Monsieur Gado.
Oui, lui-même. Mm-hmm. Bon, j'ai 3 questions.
Allez-y.
À propos des prêtres, ce n'est pas un problème. Bientôt, nous allons rentrer dans l'État sahélien, là, on ne connaît pas le pape. Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Bon, secondo, je voudrais demander aux députés, comme leur mandat est fini, n'ont qu'à diminuer leur salaire. C'est très, très important. Tierso, je voudrais lancer, remercier le ministre de la Sécurité. On a crié maintenant, il a envoyé des soldats pour arrêter les gens qui violent les feux rouges et 4 autres. Et j'ai approché les soldats, je les ai remerciés. Et si quelqu'un. C'est très dangereux, c'est 4 000 francs par tête. Merci, bonne journée.
Je vous en prie, monsieur Garo, avec son style, avec beaucoup d'humour. Oui, voilà, le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Voulez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
Oui. Mm-hmm. Par rapport au découpage.
Oui.
Je ne trouve pas ça intéressant. Parce que le peuple togolais n'est pas aussi nombreux que ça. Nous avons un petit pays. Je reste à la position que mon frère avait fait l'autre fois. Il suffit de faire du Togo une transition. Et là, on fait une répartition proportionnelle.
Mm-hmm.
Et puis le problème est réglé. Ce n'est pas le nombre de députés qui va permettre de voter des lois qui vont améliorer la situation des citoyens. C'est la qualité du travail qui importe. Et pour faire disparaître les inégalités au niveau de répartition, si vous faites de tout le Togo une seule circonscription électorale.
Donc vous proposez que nous passions à la proportionnelle intégrale.
L'intégrale, puis c'est fini. On garde le même nombre.
Comme notre ami Didier en avait parlé déjà par deux fois.
Par rapport aux catholiques,
mm-hmm.
Je trouve que franchement, les blancs là, ils vont bouleverser ce monde.
Ils le font déjà.
Oui, ils ont notre culture. Pourquoi ils veulent nous imposer ce qu'eux, ils ont? Est-ce que nous leur avons une fois demandé de faire ce que nous faisons? Non! Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. S'ils savent que c'est bon, ils n'ont qu'à appliquer ça chez eux. Et nous laisser en Afrique en paix. Merci beaucoup.
Sinon que c'est nous qui allons avec promptitude et enthousiasme vers eux pour adopter ce qu'ils font là-bas. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Fass.
Oui.
C'est M. Colani depuis Agoué.
Colani depuis Agoué.
Oui.
Nous vous écoutons.
Je salue vos collègues sur le plateau.
Merci.
Moi, c'est le problème du concours des fonctionnaires.
Mm-hmm.
Vraiment, les citoyens dans un pays font confiance à leur gouvernement. Quand un gouvernement décide de faire passer leurs citoyens des concours, c'est qu'il a le besoin. Il a pris toutes les dispositions. Les chômeurs, que ce soit ceux qui vont passer ces concours, testent de l'argent pour aller payer la quittance, légaliser les pièces, ils vont déposer et ils passent le concours et ils n'ont pas le résultat. Au moins, il faut une communication qui dit pourquoi ils n'ont pas encore proclamé. Et si tu vois le plateau, on nous dit CPC, c'est pour discuter de l'affaire de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'affaire de la cité. C'est ces citoyens-là qui vont voter. C'est ces citoyens-là qui deviennent députés. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas proclamer et ne pas communiquer sur ça. C'est là où nous disons que ceux qui nous gouvernent, il y a le problème de légitimité. Il y a un pauvre. Faisons bas la terre pour qu'on s'assied pour voir comment il faut reconstruire notre nation. C'est très important. On n'a pas assez de temps à faire, mais il faut qu'on pose quand même, on donne un impact, quelque chose pour notre nation, pour que ça brille.
Merci les gens beaucoup, souffrent. M. Colani.
Mais nous avons l'intensité, les compétences à donner à ce pays-là.
Je sais que vous êtes gentil, vous allez permettre à un ou deux auditeurs de venir en ligne aussi. Bonjour.
Bonjour, mon patron.
Patrick.
Comment vous allez ce matin?
Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Tout d'abord, monsieur Sass, je veux m'attaquer à la déclaration du pape, le souverain pontife. Monsieur Sass, ce qui se passe, c'est vraiment dangereux. Et je crois que ce ne serait pas un débat de 30 minutes. Je vais vous inviter à faire revenir ce débat parce que c'est très, très, très crucial. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, Patrick, moi je suis ici, je verrai peut-être Michel qui est avec vous nu et je vais commencer par avoir des ambitions pour lui. Je ne sais pas là où va le monde.
Pourquoi vous choisissez Michel?
Bon, ça ne nous a pas mis en route. Vous comprenez?
Je comprends.
Ce que vous venez de dire aussi est très vérifié. Je vais vous donner, concernant la pression de l'Occident sur nos chefs d'État, là. Je vous donne un exemple. Au Ghana, côté ici, vous êtes sans savoir qu'il y a un problème de déficit budgétaire présentement au Ghana. Et allez-y chercher, vous allez comprendre. Les pays font pression sur le Ghana pour faire passer la loi là par leurs députés.
Oui.
Mais vous avez le
oui.
PHA qui ne va jamais accepter. Oui, les pays font pression sur le Ghana pour homologuer ce mariage-là. C'est anormal. Bon, je ne vais pas prendre de temps pour finir là, monsieur Sass. J'ai un message très capital aussi à l'endroit du DG de l'OTR. Mm-hmm. Mon grand frère, mon cher ami, monsieur Tchadier.
Oui.
Actuellement, il y a une note qui est en train de circuler. Si c'est vérifié, je demanderai humblement à mon grand frère de mettre balle à la terre. Concernant le pari, c'est-à-dire le jeu, là, l'ONATO surtout. Paraît-il qu'à partir du 1er janvier, ils préleveront 5% sur le gain des parieurs. Ce sont ceux qui gagnent. Ça, c'est anormal. Je demandais à mon grand frère de mettre balle à terre. On a déjà des problèmes. Si les 25 000 que les petits parieurs gagnent, on va encore prélever sur ça, c'est un peu dangereux. J'en ai fini. Bonne émission.
Je vous en prie. Je vous en prie. Michel, tout dernier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Allô?
Bonjour.
Oui.
Basile.
Basile.
Oui.
Ok, allez-y, Basile.
Le nombre de députés que nous devons avoir, c'est au plus 50.
Ah, carrément?
Oui, oui, c'est 50.
Okay.
On a cinq régions. Et s'il y a une région qui est plus étendue que l'autre, on voit s'il faut 8 heures ou bien. Il faut manager comme ça.
Mm-hmm.
Ce qu'ils font là, c'est sur la tête du Togolais qui a déjà payé un lourd tribut. Voilà. Et ça, il faut qu'ils comprennent. Moi, je n'ai pas grand-chose pour votre départ de vous.
Et c'est beaucoup quand même ce que vous dites là, Basile. Merci, merci à tous ceux qui ont pu entrer en ligne. Nous, toutes nos excuses pour ceux qui sont restés sur le carreau. Ce n'est pas de notre bonne volonté, mais grâce aux aléas de la technique et du temps. Nous revenons rapidement pour un rapide tour de table pour clore cette émission. Jean-Oulo Polorini.
Oui, pour mon tour de table, moi je vais revenir sur la question des députés. À écouter tous les appelants, on a comme l'impression que les populations ne se retrouvent plus avec la classe politique actuelle. Parce que la majorité sont fondamentalement contre l'augmentation du nombre de députés.
Bon, et vous parlez de ceux qui ont pu
ceux
appeler.
Ceux qui ont pu appeler.
Bon, on peut dire que ce n'est pas un échantillon qui est nécessairement représentatif de toute la société.
Mais c'est déjà sur plusieurs appelants, vous ne voyez même pas un qui est favorable. C'est déjà un signal qui est donné. Et je crois que cette classe politique doit se remettre en cause et véritablement revenir sur les assentiments des populations. Et c'est comme si les gens sont là-bas pour véritablement se servir eux-mêmes. Je crois que les gens doivent comprendre que certaines propositions qui sont faites ne vont pas véritablement dans l'avantage du peuple. Mais comme quelqu'un l'a dit tantôt, c'est comme si les gens sont là pour manger. Ils veulent au moins avoir leur place à l'hémicycle. Si avec 91, on n'a pas pu avoir ce qu'on peut avoir, avec 117, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Au moins avec 117, ils disent que au moins ils vont avoir une chop-chop, comme les gens disent, pour manger. Mais vraiment, c'est pourquoi quelqu'un a dit tantôt que on a comme l'impression que la politique est le business qui marche le plus. Faut pas qu'on donne cette image-là aux populations. Pour mon dernier mot, moi j'invite véritablement la population en cette fin d'année à être prudente sur les routes. Prudence dans ce que nous achetons au marché, parce qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup de produits périmés. Vigilance, notre santé vaut mieux
merci,
que la
merci, merci. Alors, pour ce qui est de la politique, je me rappelle les propos que tenait il y a quelques jours Maître Jean-Yavi Degli, qui disait que la politique, c'est à la fois une prostituée dont tout le monde peut payer le service, mais également la politique, c'est également une grande dame qui se réserve pour des gens de grande classe. Suivez mon regard. Et le Mati Tchoubé, ta minute de fin d'émission.
Non, non, en réalité, je crois quand même qu'il y a un problème. Si des gens se retrouvent pour parler d'augmentation du nombre de députés, c'est pas ce qui préoccupe les populations actuellement. Vous comprenez? Et les gens, ils sont à 91, ils n'ont même pas été véritablement à la hauteur de ce qu'on attendait par rapport justement au rapport Covid. Mais rapport Covid, la table du Parlement, c'est un fiasco. Mais avec tout ce qu'on a entendu et tout ça, mais les gens, mais et
puis mais la commission n'a pas encore livré ses conclusions.
Non, oui, mais ça, c'est pas. Je parle de la première audition, c'est le premier contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'était un fiasco. Mais aujourd'hui, avec ça, on demande d'augmenter à 117 parce que les gens ont déjà fait leurs calculs, chacun voit. Et puis pire. Vous dites que vous n'avez pas fait recenser des gens dans la zone 1.
Tu reviens.
Mais là, je reviens dessus. Parce que, non, Michel, non, je suis franc.
Okay.
On connaît le fief de chaque parti politique. Mais dans votre zone d'où vous dites qu'on n'a pas fait, on veut faire recensement, Mais les gens ne les ont pas fait recenser. Vous voulez aller gagner au nord? Depuis quand des partis politiques ont des fiefs au nord? De l'opposition? On connaît le fief de tout le monde. Mais c'est dans votre chef que vous n'avez pas fait recenser des
peut-être
militants.
Que les
mais
c'est là-bas que vous voulez qu'on augmente
le nombre de sièges. Non, il y a des incohérences.
Merci.
On est au Togo, on vit au
merci.
Togo.
Et là, Mati Tchogbe, Michel Tchadja, pour conclure.
C'est aux acteurs politiques de décider de ce qu'ils veulent faire pour créer les conditions d'apaisement dans notre pays. Et je pense que ce n'est pas le nombre de députés qui va aller vers l'apaisement. En tout cas, c'est mon avis personnel. C'est des arrangements. Si ça, ils s'arrangent entre eux, c'est bien. Mais moi, je ne partage pas ça. C'est comme ça.
C'est ton droit le plus absolu.
Maintenant, je voulais terminer en interpellant les autorités sécuritaires de notre pays. Ces derniers mois, novembre, décembre, il y a vraiment augmentation de cas de vol de motos dans des domiciles des gens. Dans des domiciles, les gens gardent leur moto chez eux et le lendemain, ils ne les retrouvent pas. Malgré tous les efforts de la police, de la gendarmerie, ces cas-là sont de
plus en plus. Est-ce que les gens ont bien fermé
propre.
La maison clôturée.
J'ai vécu des situations l'année dernière où quelqu'un a bloqué sa moto. Malgré cela.
Le lendemain,
elle n'a pas sa moto.
Oui.
Voilà. Et on s'est retrouvé à la police. Moi, j'étais allé pour porter plainte pour vol de mes effets, mes cartes de sécurité et tout. Et l'autre, elle est venue pour déclarer. J'étais surpris, mais ces derniers mois, c'est les cas-là qui sont beaucoup récurrents dans les quartiers. Et nous appelons les autorités. Malgré, on ne dit pas qu'il nous faut, il faut beaucoup. Mais elles n'ont qu'à quand même augmenter, en tout cas redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité.
Ça me rappelle un monsieur qui dormait avec son pied attaché à sa moto. Il a juré on ne volerait sa moto qu'avec lui-même. Pour terminer, hier, vous rappelez, nous avons célébré la journée internationale de la solidarité humaine. Hier, nous évoquions le cas de l'ancien député, actuellement maire de la commune Ziokatre, Franck Etchek Sego, lui qui préparait la Noël pour les enfants de sa commune rurale. Aujourd'hui, nous trouvons dans les colonnes de Voilà les vainqueurs une autre personne charitable. C'est Madame Immaculée Yobate, épouse Bakali, qui également prend les dispositions pour offrir un peu de joie.
Elle a déjà fait.
Ok, hier même, qui a donné un peu de joie aux élèves d'Aditi Kopé, qui fait partie de la circonscription électorale où elle a été élue députée. Madame Immaculée, merci. Mais pour vous rappeler, il n'y a pas que les élèves d'Aditi Kopé qui ont besoin de sourire un peu à Noël. Il y en a également un peu partout. Je sais que vous en faites, mais c'est pour vous demander à en faire beaucoup. Et si on parle de Sego hier, de Bakali aujourd'hui, c'est que c'est à travers ces deux personnes-là, à toutes les bonnes volontés. Hier, nous parlions de la présidente du conseil d'administration du foyer Appel, Madame Chantal Trenou, qu'elle souffre, que son humilité soit dévoilée ici, et les gens de Lions Club, de Rotary, qui sont allés offrir un peu de sourire aux enfants du foyer Appel. Toutes les bonnes volontés, donnons un peu autour de nous.
La fondation Assal va aussi venir en aide à plus de 3000 enfants dans les prochains jours.
Elle va faire.
Oui.
Eh bien, quand elle va faire, effectivement, nous reviendrons ici pour en parler. Et puis, rendez-vous demain au Club de la Presse. Pour une seule raison, je ne vous conseille pas de rater l'émission de demain vendredi. Et si vous êtes à l'antenne demain, vous comprendrez pourquoi.